Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court. Tous les soirs, c'est une conversation qui dure une heure avec des artistes. Ce soir, c'est Pierre Sange.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parler temps qui court.
Marie Richeux et Pierre Sange.
Les êtres qui cherchent à tout prix du sens aux choses ne sont pas que des grands désespérés courant derrière le réel pour l'attraper enfin. Ce sont aussi de drôles d'oiseaux, endurants, travailleurs, poètes, comiques souvent, et l'on peut dire, Pierre Sange, qu'avec votre dernier livre, vous les avez mis au travail. Vous les appelez les significateurs ou les assignateurs de signification, et on ne peut pas dire que vous leur soumettiez le plus évident des objets avec la tarte à la crème. La bonne grosse tarte à la crème qui entrave la vue, tache la robe, fait glisser ou fait taire. La tarte à la crème dont la plus longue bataille de l'histoire du cinéma muet figure, de source sûre, dans La bataille du siècle, un film de 1927. Vous écrivez qu'elle entend cette bataille déchaîner en 10 minutes de film toute la rage que l'humanité contient difficilement. À voir ou revoir sur YouTube, moi, je la trouve hilarante. C'est une déclaration de Stan Laurel, de Laurel et Hardy, qui semble vous avoir mis, vous, au travail. Le comédien britannique aurait dit « On a voulu faire en sorte que chaque tarte ait un sens ». La théorie psychanalytique, l'industrie du cinéma et son histoire, un certain mysticisme allemand, la pratique du Talmud, il n'y a aucune limite aux outils qui sont les vôtres dans ce texte rebondissant, qui se demande s'il est mieux de comprendre ou de s'en remettre enfin à la sagesse de ne rien comprendre du tout. Bonsoir Pierre Sange.
Bonsoir.
Est-ce que vous pensez qu'on va traiter cette question ce soir? Est-ce qu'il est mieux de comprendre ou ne rien comprendre du tout?
J'espère pas. J'espère qu'on n'aura pas fini à la fin de l'heure et que ça va déborder sous une forme ou sous une autre. Parce que dès qu'on tire le fil de ces questions-là, on tombe après dans des métaphysiques sans fin, vastes. Et... Alors peut-être pas désespérés, comme vous le disiez, mais entre le désespoir et l'espoir, je ne sais pas.
Oui, vous avez remarqué que j'ai dit que ce n'était pas que des désespérés.
Oui, oui, hein. C'est vrai. Il n'y a pas que des désespérés.
Ah, enfin,
cette question-là traverse aussi la tarte à la crème et les lanceurs de tarte à la crème, la tentation soit du désespoir, soit de l'aquabon.
Du nihilisme.
Oui, du nihilisme, voilà, de savoir si signifier vaut la peine, comme on l'entend aussi dans une pièce de Beckett. On a deux personnages et l'un des deux dit à l'autre est-ce qu'on ne serait pas en train de signifier quelque chose? Et l'absence de signification peut être inquiétante, mais une sur-signification aussi peut être comme une sorte de devoir qui dépasse notre taille humaine.
Donc c'est pour ça que votre texte, à mon sens, fonctionne comme une sorte de battement, comme une porte qui irait d'un radical à un autre radical, du sens au non-sens, comme ça, sans jamais considérer que le milieu serait la bonne place à tenir. Je donne le titre, parce que je ne l'ai pas fait, « Projectile au sens propre ». C'est paru chez Vertical, on en écoute un extrait.
Des tonnes de pâtisseries. Des quantités de crème véritables mesurées en litres, ou plus sûrement en onces, pintes et gallons. La quantité à Hollywood est un défi d'artiste-producteur. La concurrence à l'art total est la réponse des esprits pragmatiques au nom du « il faut ce qu'il faut ». On reviendra plus tard sur ces mesures extravagantes. On reviendra aussi sur la manière de bien fouetter la crème. D'ici là, il faut négliger l'abondance pour s'en tenir aux détails singuliers et s'intéresser de plus près à une phrase, une seule, dite un jour à un représentant de la presse par Stan Laurel, le comédien, Stan Laurel, le réalisateur, celui de Laurel et Hardy, à propos de la bataille de Tarte. Il faisait allusion à la bataille du siècle, tournée en 1927, œuvre où la crème débordait. Il parlait en parfaite connaissance de cause, testamentaire et saint d'esprit. On a voulu faire en sorte que chaque tarte ait un sens. Ainsi, nous voilà prévenus. Il y a eu des milliers de tartes, les quintaux de farine, les litres de crème, des bras de galériens pour la fouetter dans des manufactures à l'aube, des dollars par milliers aussi, des kilomètres de pellicules, de ces batailles comme des gesticulations de fête du printemps en hiver, des transes collectives, des piétinements de profanateurs et d'iconoclastes. Le plaisir très grossier de voir un monsieur en costume enrobé par la crème depuis le bout de sa cravate jusqu'à la pointe de ses cheveux, et le rire là-devant étant un rire fondamental, sans Freud et sans Bergson, sans trait d'esprit. C'est à peine si on pensait à Aristophane, on n'en avait pas le temps. Une tarte suivie d'une autre tarte et l'étoile de la crème sur des visages ahuris nous auraient fait ravaler nos références. La honte se mêlait à la joie ronde et pleine. On voyait dans ces batailles de pâtisserie un antidote à Schopenhauer ou à la grammaire de Port-Royal. Eh bien non, on avait tort, tout cela avait une signification. Du moins, chaque tarte l'une après l'autre, m'entendez-vous ? Chacune d'entre elles avait un sens et s'écrasait avec son sens sur des visages de comédiens.
Ça pourrait être ça, une sorte de programme comme ça de votre texte à venir, puisqu'on est au début de Projectile au sens propre, Pierre Sange. Un écrasement du sens, ou en tout cas, faudrait peut-être en passer par là pour atteindre ou arriver à autre chose. C'est aussi un texte qui ne cesse de se poser la question de l'origine, avant que la tarte s'écrase sur un postérieur de femme ou sur le trottoir. Il y a des gens qui l'ont battu pour que la crème existe et puisse atterrir sur la tarte. Alors l'origine de ce texte-là, ce serait quoi ? C'est la phrase de Salnoren ?
Oui, oui, une phrase qui, malgré toutes les apparences, est vraiment est réelle et authentique. Plus elles sont authentiques et plus elles sont étonnantes. C'est un entretien qui avait paru, je pense, la première fois en 1929 dans un journal américain, le Los Angeles Times, si mes souvenirs sont bons, et qui a été repris il n'y a pas si longtemps dans une revue française, Positif, consacrée au rire d'ailleurs. Et différents rires, dont le rire de burlesque, de la tarte à la crème, de ce cinéma muet et burlesque. Et avec cette citation, cette revendication du sens de la part, enfin venue d'un monde où on attendrait le moins ce genre de déclaration, ce genre de revendication de la signification, du sens, de la réflexion, de la mesure, etc. Et cette phrase-là m'a beaucoup plu et m'a aussi presque d'une certaine façon ému, parce que effectivement voir une défense de la pensée. Venue de là où on ne l'attendait pas, alors que par ailleurs, elle est si souvent attaquée parce que la tentation de l'anti-intellectualisme est toujours présente. Voilà, je trouvais ça à la fois très drôle, très stimulant du point de vue romanesque. Je pense qu'on pouvait en tirer quelque chose d'assez drôle et intéressant. Voilà, sur ce que ça dit de du métier de comédien, du métier de ce cinéma apparemment simple, régressif, un peu simpliste, mais qui quand même est fait avec sérieux. Voilà.
Oui, et puis on va voir que finalement, quels que soient d'ailleurs les chemins de sérieux ou pas sérieux que vous empruntez, Pierre Sange, c'est quelque chose qui vous donne à penser. C'est donc l'un des aspects comme ça riches de cette phrase-là. Puisqu'on évoque la bataille du siècle, vous pouvez la raconter juste cette scène comme ça dont vous dites que en 10 minutes, on fait éclater toute la rage que l'humanité peine par ailleurs à contenir.
Oui, alors c'est aussi une rage qui prend une forme molle, une forme tendre. C'est l'avantage aussi de la tarte à la crème. Le point de départ est toujours assez simple. Hein. Je crois que même ça commence par une peau de banane et les deux personnages de Laurel et Hardy. Un pâtissier tombe. Ce pâtissier par chance, était en train de livrer des tartes à la crème. Et donc une première tarte est lancée, puis une deuxième, puis une troisième. Il faut savoir que chaque tarte, alors Stan Laurel voulait faire de cette bataille de tartes à la crème la plus grande de toute l'histoire, la jeune histoire du cinéma de l'époque, hein. Et effectivement, il y a un déchaînement, il y a un plaisir du nombre qui fait l'intérêt de cette scène. Et c'est ce qui produit aussi l'inflation, c'est que chaque tarte rate un peu sa cible. Et donc il y a des dégâts collatéraux et une multiplication algorithmique des victimes qui deviennent aussitôt immédiatement coupables ou enfin font maintenant l'instant d'après partie prenante de cette bataille. Et donc après on ne sait plus trop, tout le monde tire sur tout le monde et c'est une sorte de chaos absurde qui devient graphiquement très très beau. On abandonne pour le coup le sens non pas de la tarte mais de la raison même de cette bataille, parce que c'est une bataille qui se nourrit d'elle-même, hein, c'est un petit peu comme...
Et puis on s'en éloigne en fait, on l'abandonne ce sens, et puis on abandonne le sens à mesure qu'on s'éloigne aussi de l'origine, c'est-à-dire que finalement c'est plus, au bout d'un moment on sait plus pourquoi les tartes volent.
Voilà.
S'il fallait trouver un sens du départ, c'est-à-dire oui je me suis cassé la figure sur une peau de banane que tu tenais dans ta main, donc c'est un peu à cause de toi, donc j'ai un peu une raison de t'envoyer une tarte à la crème dans la figure. Après, on ne sait plus pourquoi.
Voilà, c'est un pur prétexte narratif qui est accepté très rapidement. Et puis le reste, après, se nourrit de soi. C'est une sorte de mouvement perpétuel de la tarte à la crème, avec la justification quand même de la présence de toutes ces tartes par une compagnie de voilà, la Los Angeles Cream Pie Company, qui est là pour prodiguer des tartes, et on distribue des projectiles sans fin.
Il y a deux choses qui sont déjà là, au moins, voire trois, dans la manière dont vous racontez cette scène, Pierre Sange. L'accumulation, donc on est du côté de la quantité, on le verra tout à l'heure, de la liste aussi, de ces choses qui viennent en nombre, avec un plaisir du nombre. Le fait que ça rate toujours, ça pourrait vraiment nous emmener directement vers la psychanalyse et Lacan, et la question d'une répétition comme ça, toujours ratée. Et le rire qui fait que, bon, on était deux en cellule de montage, moi j'étais hilar, Charlotte pas du tout, mais sur moi ça... vraiment marché, et Charlotte a fini par rire parce que moi je rigolais et que moi je la faisais rire. Et donc c'est une des questions qui se pose à nous tout de suite, c'est pourquoi c'est drôle en fait.
Oui, c'est une bonne question, parce que ce cinéma burlesque aussi tend par certains moments à peut-être pas à nous devenir étrangers, mais à prendre des formes dont on a moins l'habitude, parce que au cinéma on va peut-être maintenant plus jouer sur l'efficacité d'un dialogue. L'absurdité peut être drôle à condition de s'y vautrer, puis de jouer avec cette... vous parliez tout à l'heure d'un livre qui hésite comme une porte là, qui et ben là c'est pareil, on a une situation qui hésite entre le vraisemblable et l'invraisemblable, entre l'absurde et le non absurde, entre le justifié et le non justifié. Il y a parfois des gestes très drôles de Stan Laurel qui sont le retour de la raison dans ce déchaînement. Par exemple, il écarte quelqu'un pour ne pas être éclaboussé, et ça c'est très très drôle, parce que tout d'un coup, on a une pensée rationnelle dans ce monde qui ne l'est absolument plus. Et c'est le renversement, parce que ce n'est plus le burlesque qui est drôle, c'est tout d'un coup une pensée logique qui devient... qui a un effet comique.
Parce qu'elle n'a plus rien à faire là, en fait. Parce qu'on se dit... c'est plus la peine maintenant, ça sert à rien d'avoir l'air d'être raisonnable.
Voilà, c'est ça. Et puis c'est ce flottement qui est très intéressant aussi, entre l'absurde et le non-absurde, et tout d'un coup, voilà, on a une revendication de la pensée qui est émouvante et très drôle, oui.
Alors, on peut peut-être inscrire aussi ce texte-là, votre texte à vous, Pierre Sange, dans un contexte qui... les moins. Moi, j'avoue qu'en regardant cette scène tout à l'heure, j'ai pensé au LBD. J'ai pensé à des projectiles qui arrivent par hasard dans la tête de personnes qui ne l'ont pas, entre guillemets, mérité, qui sont aux fenêtres de leur immeuble ou dans des manifestations. Je sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'ai eu aussi une sorte de percussion des époques, des causalités, des situations, qui est une chose que vous faites avec ce texte-là. Donc c'est peut-être votre texte qui le produit, je sais pas.
Oui, j'espère que le texte a finalement des effets non intentionnels, et que les lectures produisent des effets de sens. Encore une fois, rajoutent du sens là où il n'y en avait pas. Hein. On peut signifier des tartes et puis signifier des pages. L'avantage de la bataille de tartes par rapport à la bataille de LBD, c'est que voilà, les conséquences sont quand même beaucoup plus sobres et beaucoup plus douces. Encore une fois, c'est ce qui me plaît dans cet objet sur lequel je m'interroge un peu, mais je pense que le travail reste encore à faire. Pourquoi le choix de cet objet de la tarte à la crème, qui se situe encore une fois entre l'agressivité, la rage, c'est un projectile, mais c'est aussi en soi, normalement, par nature, le contraire du projectile. C'est plutôt un objet d'offrande, de douceur, d'immobilité, de partage. Et je pense que ça a aussi contribué au succès de cet objet même qu'est la tarte à la crème, parce qu'il y a eu d'autres batailles de nourriture, d'objets, de chaussures, etc. dans le cinéma muet burlesque. Mais c'est la tarte à la crème qui est devenue symbolique, et je suppose, c'est une hypothèse, que c'est à cause de cette double nature à la fois altruiste, bienveillante,
sucrée,
conviviale, comme on dit maintenant. Voilà, c'est un mot qui peut aussi revenir à la mode dans des temps qui sont tout le contraire de la convivialité. Et cet objet de douceur dont on se sert absurdément pour punir ou comme objet de vengeance. Voilà. Et encore une fois, on se tient entre les deux, et c'est ce basculement entre la signification, l'absence de signification, ou le geste raisonné, ou le geste absolument sans cause ni conséquence qui peut provoquer le rire ou susciter en tout cas aussi une réflexion, une réflexion comique peut-être.
Après, il y a quand même quelque chose qui n'est pas sans conséquence, c'est la petite ou grande humiliation qui peut arriver après qu'on a le visage complètement entarté ou les coudes. Mmh. Et ça, on le voit bien quand même dans la bataille du siècle. C'est donc l'une des dernières scènes où la femme tombe et se relève comme ça avec le plus de dignité et de précautions possibles pour s'en sortir à peu près sauve. C'est peut-être là où est sa plus grande agressivité. C'est le risque d'être moqué.
Oui, oui, il y a des partis pris dans cette scène qui sont très osés. Je ne sais pas si on les reproduirait maintenant. Alors peut-être certains films des années 90 qui jouent aussi sur la scatologie, sur la grossièreté. Mais cette scène-là que vous évoquez, d'une dame qui s'assoit sur une tarte à la crème et qui la comédienne et la mise en scène ne cachent absolument rien des effets vraiment dégoûtants de cette tarte. Alors cette scène-là joue beaucoup sur effectivement l'humiliation, on frôle la scatologie, on frôle le mauvais goût, et c'est un choix qui est assez radical et qui contraste aussi avec les prises de vue beaucoup plus en plan large qui sont beaucoup plus graphiques et qui évoquent peut-être plus des tableaux de Bruegel ou de Jérôme Bosch, avec un déchaînement tellement lointain, tellement absurde et cet aspect humiliant et sale et dégoûtant et personnel de la tarte est effacé. Mais justement, c'est là où effectivement Stan Laurel a raison. Ils ont vraiment réfléchi à cette mise en scène, à ce découpage. C'est qu'on alterne des scènes d'entartage très particulière, très localisée sur telle ou telle personne, avec chaque fois des situations différentes, un monsieur assis, une dame debout, quelqu'un chez le coiffeur, un égoutier qui sort de terre, etc., avec des scènes plus larges qui sont comme une alternance musicale entre des solistes et puis des parties de tutti.
Quand Chaplin fait enduire ou couvrir un chapeau melon de crème chantilly pour le servir comme un repas, enfin, ou comme un casse-croûte dans le contexte d'ailleurs particulièrement savoureux, à savoir pendant un thé de 5 heures chez un curé, évidemment, il nous fait voir le chapeau comme un objet étrange, comme quelque chose d'autre qu'un chapeau. Et là, on s'approche à nouveau de la poésie surréaliste et de la poésie tout court, je pense. Donc c'est cet aspect lyrique des objets qui leur viennent de l'air concret, justement, non seulement la tarte à la crème, non seulement le chapeau melon, mais aussi les vieilles voitures Ford, les toutes sortes de décors, d'accessoires, les badines, les gants, les potiches, les paravents, et évidemment la nourriture qui est liée au corps, n'est-ce pas? Donc c'est cet aspect lyrique des objets que le burlesque nous les a fait voir sous un angle différent.
C'est la voix de Petr Kral, un écrivain tchèque, dans une archive de 1985, Le cinéma des cinéastes. Pierre Sange, qui évoque l'inquiétante étrangeté des objets concrets, et peut-être encore plus, dit-il, des objets liés à la nourriture, parce qu'ils nous ramènent au corps. Finalement, c'est la suite de ce que nous disions à l'instant. Alors, je ne sais pas si c'est la conséquence du travail autour de ce livre et de l'écoute de ces archives, mais d'un seul coup, encore une fois, nous étions en cabine de montage et les mots se mettaient un peu à trembler. C'est-à-dire que des mots qui me sont habituels, qu'il me semble maîtriser, dont il me semble maîtriser le sens, je me disais, attends, mais ça s'écrit comme ça, est-ce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire? Comme s'il y avait quelque chose de contagieux, que quand on se mettait à trouver bizarre les objets, à en faire des choses autres que celles dont l'apparence nous paraît claire, eh ben c'était parti, quoi. C'était la grosse fête de tout tremble.
Oui, je pense que ça fait partie aussi de la mise en scène artistique et comique de ce burlesque, de prendre un objet puis d'en faire autre chose. C'est pour ça qu'aussi, un peu plus tard dans le livre, il est question de désuétude, parce que la désuétude de l'objet, c'est la même chose, mais de façon naturelle. C'est un objet qui va finalement se dépouiller de son sens ou de son usage parce que il a été muséifié, parce qu'il a été oublié, et parce qu'on n'en a plus l'usage, etc. Mais c'est vrai que ce cinéma burlesque, muet, trivisuel, qui joue sur des objets et pas encore sur le langage, et plus tard on va se resservir du langage comme d'un objet, finalement en lui faisant subir les mêmes tremblements, les mêmes décalages, le même jeu de quiproquo, de mésusage, etc. Ce cinéma a beaucoup fasciné les poètes, les surréalistes, mais aussi certains anthropologues ou des sociologues, et qui ont remarqué aussi tout simplement que si on voit un film muet, peut-être même en ralentissant d'un rien sa vitesse, ces films burlesques, ces films de slapstick, de coups de bâton, peuvent devenir extrêmement cruels, et que on rit beaucoup de cette art, de ces chutes, etc. Mais en fait, on se tient encore une fois, on est dans un entre-deux, on se tient entre l'amusement et, comme on le disait tout à l'heure, l'humiliation ou carrément la violence, parce que c'est aussi un cinéma grimaçant. C'est un cinéma de la chute, du coup, qui peut être très dangereux pour les comédiens. Et Buster Keaton a été un cinéaste, un comédien qui a pris énormément de risques et qui mettait en jeu son corps et qui prenait qui en subissait des coups physiquement, en fait, qui était atteint anatomiquement dans son corps. Donc, effectivement, ce jeu sur les objets, sur le déplacement du sens et le décalage, voilà, une tarte sert de projectile et un chapeau sert de tarte, voilà, je peux comprendre qu'il séduise aussi les poètes. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, une idée m'est revenue quand on parlait de l'absurdité, et de cette façon de se tenir vraiment sur la juste ligne entre le sens et le non-sens, c'est que si on bascule trop d'un côté ou trop de l'autre, on perd un petit peu l'humour, on perd le gag, on perd l'élégance de l'écriture du film. Et Buster Keaton était très très à cheval. Alors on n'est plus chez Stan Laurel, mais on est chez son collègue, hein. Buster Keaton était très très précisément préoccupé par cette question-là, et il a abandonné au fur et à mesure de sa carrière certains gags qui lui semblaient trop surréalistes d'une certaine façon, et il voulait quand même que cette poésie qui peut plaire ne nuise pas à l'effet comique, et il a eu tendance à revenir vers quelque chose de plus de moins poétique, disons à la Pierre Etex ou à Jacques Tati, qui ont leur grande qualité, mais à revenir plus du côté du concret, parce que c'était là, selon lui, que se tenait son humour. Voilà.
Est-ce que vous savez ce qui vous fait regarder, par les temps qui courent, Pierre Sange, dans cette direction-là? Qu'est-ce qui fait que c'est ça qui vous aimante le temps de l'écriture du texte?
Pour la tarte?
Non, plutôt pour ce cinéma en général quand même, parce qu'on sent bien que c'est aussi un réseau d'images, d'histoires, de façons d'être et de penser.
Oui, alors le cinéma burlesque et puis tout le cinéma comique en général, qui fascine et qui inspire un très grand respect, parce que c'est un cinéma extraordinairement compliqué, difficile à faire. Voilà, je ne dis pas que le drame, les tragédies sont plus faciles, mais la sanction pour la comédie en général arrive très rapidement et de façon très cinglante. C'est, si ça ne marche pas, on ne rit pas, et il n'y a pas on peut pas apprivoiser lentement un spectateur, et au contraire, le spectateur on ne peut pas apprivoiser lentement un cinéma muet ou un cinéma comique. Il faut que ce soit un accord immédiat et ça se joue à deux secondes près. Enfin, les grands comiques, Blake Edwards plus tard, ce sont des artistes de la durée, de l'enchaînement, du tempo. Et c'est un travail très difficile. Et ce qui me touche, c'est que proportionnellement à la difficulté de ce travail, la reconnaissance n'est jamais, surtout maintenant, à la hauteur de ce travail-là. Et c'est ce qui me plaît dans cette déclaration de Stan Laurel, c'est qu'il rappelle, sans forfanterie, sans orgueil particulier, que c'est du travail, que ça demande beaucoup de sérieux et que chaque plan a été réfléchi. Et je lui rends gré de rappeler ça, parce que on a tendance à considérer, alors ça dépend des époques et ça dépend de qui vient la critique, mais la comédie comme un simple divertissement qui n'est pas aussi, qui ne mérite pas autant de respect que le drame social ou sentimental, etc. Les récompenses pour le cinéma comique sont beaucoup plus rares que les récompenses pour le cinéma non comique. Ça c'est un fait. Après c'est pas extrêmement dramatique, mais ça donne une idée de la façon dont sont reçues les choses.
Est-ce que vous diriez que finalement cette histoire de contrat ou d'adhésion entre le spectateur, la spectatrice et le film et le lecteur, la lectrice et le livre sont des choses qu'on pourrait rapprocher ? Est-ce que vous diriez, vous aussi Pierre Sange, qu'il faut que ça aille très vite, qu'on puisse très vite se dire « Ok, je rentre dans ce livre-là » ?
Je pense qu'il y a une question de tempo, c'est sûr, oui. De tempo et de... je veux pas parler de connivence, j'aime pas beaucoup ce mot, mais qu'un petit contrat tacite s'installe entre le lecteur et le livre assez rapidement et qu'on joue le jeu. Donc je peux très bien comprendre par exemple qu'on ne joue pas le jeu avec ce livre-là, mais si les règles du jeu sont posées d'emblée avec des notes en bas de page, avec des faces ici, avec des tapis qu'on tire aussi, ici ou là, si le lecteur accepte de jouer avec le livre, mais là c'est gagné. Mais effectivement, faut que ce soit faut que le commerce, enfin le contrat, soit fait de façon honnête dès le début, quoi.
Et ça veut dire que pour vous, en tant qu'auteur, il faut que vous le présentiez de manière explicite ou non explicite, Pierre Sange, mais que pour ce genre de livre-là, par exemple, qui procède par chapitres courts, par chapitres divers, à la forme divers, aux propos divers, aux traitements divers, du réel, de la fiction, de l'humour, il faut qu'il y ait quelque chose dans le début du livre qui dise voilà comment ça va fonctionner entre nous.
Oui, exactement. Oui. Vous avez raison de rappeler l'importance du tempo dans ce type de livre. Effectivement, les chapitres sont courts, ils sont alternés pour varier les points de vue, pour dérouter un peu, mais dérouter ou distraire. Voilà, il y a une volonté aussi de ne pas rentrer dans des grands tunnels un peu ennuyeux et d'annoncer la couleur dès le début avec des notes en bas de page qui vont bien nous faire sentir qu'on n'est pas dans un étalage d'érudition, mais dans une fausse érudition ou dans un jeu avec l'érudition, par exemple. Voilà, ça me paraît nécessaire.
Presque au bout du monde, ma barque est vagabonde et rentre au gré de l'onde, mais qu'on dit un jour, l'île est toute petite, mais la fille qui l'habite gentiment nous invite. Faire le tour, Yucali, c'est le pays de nos désirs, tous pour demain.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Pierre Sangès, Sange, comme on dit. Pierre Sange.
J'écris dans l'espoir que de nombreuses pistes vont me permettre de m'écarter de ce que je suis en train de raconter normalement, en fait. Ça ne m'intéresse pas tellement de décrire l'histoire telle que j'ai pu l'imaginer au début. J'espère sans cesse que va naître une occasion de m'en éloigner, en fait, puisque c'est là que l'aventure commence, que l'aventure d'écrire commence. Et pour moi, l'élément de surprise est quelque chose de très important lorsque j'écris et lorsque je lis aussi. C'est-à-dire que j'aime être tout à coup stupéfait par ce que je lis et en tant qu'écrivain par ce que j'écris. Et je pense qu'un petit conte comme ça, qui était très bien structuré, le conte des frères Grimm, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, il y avait une succession de 4 ou 5 épisodes extrêmement... bien enchaînés les uns aux autres, me permettait, puisque le conte lui-même était solide, je pouvais y revenir comme sur un sol ferme, c'était aussi, je pouvais du coup décoller facilement de ce sol ferme et m'en éloigner comme en avion ou en bateau, et puis regagner régulièrement la terre, quoi, et revenir au conte, revenir à l'histoire. Mais tout était permis, entre 2 épisodes du conte, tout était permis. En fait, je crois que c'est Lewis Carroll qui disait « Entre un point A et un point B, toutes les digressions sont possibles. Le tout est de réussir quand même à rejoindre le point A et le point B. »
C'est la voix d'Éric Chevillard dans une archive de 2003 au micro de Pascal Casanova dans les mardis littéraires. Il évoquait le vaillant petit tailleur, donc il part de la structure de ce conte de Grimm et on peut imaginer qu'il y a entre ces points A et ces points B de l'espace pour autre chose. Ce qui m'intéresse dans ce que dit Chevillard à propos de votre propre travail, Pierre Sange, et singulièrement dans Projectile au sens propre, qui est l'ouvrage dont on parle aujourd'hui, c'est la surprise. C'est partant d'une structure qui nous semble solide, d'un sol ferme, il y a des surprises, des aventures qui sont propres à l'écriture. Elles ont été lesquelles, s'il y en a eu dans l'écriture de ce texte-là, pour vous ?
Oui, j'espère qu'il y en a. En tout cas, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, si l'écriture n'est que le déploiement d'un récit prévu d'avance, et si l'auteur s'ennuie, on est à peu près sûr que le lecteur va s'ennuyer. Et donc là, on évoquait Lewis Carroll, on peut penser aussi à Laurence Sterne qui dessine à peu près la même courbe entre un point A et un point B avec des zigzags et des détours. Donc là, le principe de ce travail, à partir du moment où on décide d'écrire un livre ou en tout cas d'écrire quelque chose sur ce thème aussi ténu quand même que la tarte à la crème, c'est effectivement de mettre en place toutes les conditions de la surprise et voire de l'échec, de l'écueil, de la porte ouverte sur un mur, de l'escalier qui ne mène nulle part, de la mauvaise piste, voilà. Et je travaille un peu comme ça, je travaille sur un thème, donc là c'est le thème très général de la tarte à la crème avec des digressions possibles sur la crème chantilly, sur le cinéma muet, sur la comédie, sur le sens, sur Angelus Silesius qui va au contraire voilà parler d'une rose sans pourquoi. Je multiplie les pistes. Au stade du brouillon, beaucoup de ces pistes sont mauvaises, d'autres le sont un peu moins, et je ne les suis que si j'y vois un intérêt ou si en tout cas au contraire peut-être je n'en vois pas le bout et je veux les suivre pour savoir
où ça vous mène,
où ça me mène, et peut-être qu'une mauvaise piste va mener sur une autre mauvaise piste qui va mener sur une autre mauvaise piste, mais qui va mener sur une peut-être le début de quelque chose, comme disait Harry James, le début peut-être d'une bonne idée qui va rester dans le livre. Donc
voilà. En gros, faut toujours follow the right rabbit, quoi. Faut toujours suivre voilà. Le lapin blanc et puis voir.
Voilà, exactement. La tarte blanche, le lapin blanc, voilà, etc. Voilà.
Même combat.
Voilà. Ensuite, le travail, c'est un travail bon, pour ne pas imposer au lecteur le catalogue des mauvaises pistes. C'est hélas coupé et voilà, donc tout un travail de deuil des pages les plus mauvaises et de garder ce qu'on suppose être ce qui va surnager et qui on l'espère dans ce travail de montage presque cinématographique. Finalement, à la fin, on raboute des scènes, encore une fois un plan large, un gros plan, un duo, une scène de foule, un extérieur, un intérieur. On essaye d'alterner. On espère que une fois que le livre est raccommodé, cette idée-là de l'effet de surprise ou de l'envie de l'effet de surprise ou du détour va rester dans la forme.
Y compris pour la personne qui se lance du coup dans la lecture et qui va lui aussi ou elle aussi suivre des pistes. Pierre Sange, il y a une piste que vous suivez, c'est celle d'Angelus Silesius, oui. En dialogue avec Stan Laurel, y compris à travers les siècles et dans des espaces-temps comme ça qui pourraient paraître impossibles. C'est qui, Angelus Silesius?
Alors, Angelus Silesius, c'est le... Dans ce livre-là, et l'antagoniste parfait de Stan Laurel, il décrétait au contraire que la rose est sans pourquoi. On le présente comme un poète mystique. C'est plutôt un mystique qui s'est servi de la poésie pour exprimer son mysticisme ou pour faire part de ses pensées théologiques. Allemand du XVIIe siècle. Qui était plutôt proche des luthériens au départ, puis qui s'en est vite détaché, comme tout bon mystique, il ne peut s'attacher à rien, à aucune école, à aucune église particulière, qui a plutôt mené une vie d'ascèse et qui s'est exprimé sous forme d'aphorismes. Dans un recueil notamment qui s'appelle le pèlerin chérubique ou chérubinique selon les traductions et sous forme de phrases voilà de courtes phrases de pas de sentences mais voilà de choses un petit peu flottantes encore une fois entre la signification et l'absence de signification
et le haïku quoi
et le haïku voilà
haïku avant l'heure côté Allemagne
voilà haïku chrétien et son voilà, sa devise, enfin son haïku le plus célèbre, qui est devenu un tube du mysticisme, c'est « La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit ». Donc c'est un appel à la contemplation, à la béatitude, mais on peut y voir aussi, avec un grain de mauvaise foi, comme j'ai pu le faire, mais quand même, c'est essayer, un appel aussi au renoncement à la raison, à la réflexion, qui est parfois une des maladies possibles d'un certain catholicisme ou même de la chrétienté en général. Hein, autant peut y avoir des athlètes de la raison comme saint Augustin ou saint Thomas, autant régulièrement il y a une espèce d'appel au renoncement à la réflexion, à la science, à la curiosité pour vivre dans un état de béatitude.
Pas que dans la chrétienté d'ailleurs, parce que nombre de sagesses flirtent toujours avec ça en fait.
Flirtent toujours
avec l'idée que il y a un salut dans le consentement au monde tel qu'il est et qu'en fait il y aurait un possible comme ça délivrance ou abandon au monde, abandon à soi, abandon de toute identité, de toute compréhension pour
bien sûr.
Sur terre ou à venir.
Bien sûr, mais ça peut être aussi l'abandon au corps ou à une inspiration poétique qui serait sans justification ou sans cause ni conséquence ou un abandon à voilà une sorte de sentimentalité on trouve ça chez les meilleurs auteurs ou les auteurs de littérature les plus réputés qui voilà même là dans le domaine où on devrait être au contraire dans une revendication de la pensée il y a très régulièrement chez Céline ou chez Kombrowicz un appel à ou une méfiance, c'est encore plus vicieux que ça, c'est une espèce de méfiance envers tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une idée.
Au profit de quoi?
Alors, au profit d'eux-mêmes, ça c'est la plupart du temps.
C'est pas mal.
Voilà. Et c'est-à-dire que quelqu'un comme Céline a plutôt intérêt à jeter le discrédit sur les idées, parce que le peu d'idées qu'il a eues n'étaient pas fameuses. Donc, c'est tout à fait normal, ça, c'est une stratégie, c'est très réfléchi, mais c'est une stratégie de déconsidérer l'idée, les idées en général, parce que les siennes étaient mauvaises. Donc, au profit de l'émotion, voilà,
Et pour Gombrowicz?
Et pour Gombrowicz, dont la grande devise et dont il était très fier, c'est plus c'est savant, plus c'est bête. Je pense qu'il y a une part de posture dans sa revendication de l'immaturité, mais après, je ne sais pas, je connais peut-être pas assez le bonhomme pour ça, mais je pense que c'est une façon de défendre leur propre littérature. Souvent, quand 9 fois sur 10, quand un écrivain donne une définition générale de la littérature, il fait un autoportrait.
À son avantage.
À son avantage.
Tout à son avantage.
Voilà, voilà.
Mais ouais. Vous jouez, vous aussi, avec ça, Pierre Sanche, puisque dans le texte qu'on entendait au début, dans la voix de Romain de Becdelièvre, vous parlez d'un rire enfin sans Bergson, ou je ne sais plus qui était congédié comme ça, ou sans Freud, ou sans philosophe pour le décortiquer. On sent bien, je parlais d'un texte comme ça, comme une porte battante qui va du désir du non-sens au désir du sens absolu, que vous vous posez la question de qu'est-ce qui se passe quand on renonce à ça, en fait, aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on renonce à toute pensée, à toute signification, à toute recherche du sens qui n'est encore pas exactement la même chose. Comme si, quand même, en creux, vous vous posiez la question d'une époque, aussi.
La question, c'est aussi de savoir si on peut maintenir le rire avec la réflexion. Je pense que c'est tout à fait compatible. Des grands comiques, on peut...
Heureusement.
Chevillard évoquait Lewis Carroll. C'est très drôle. C'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup et il arrive à faire quand même des syllogismes drôles, ce qui est un exploit. Mais finalement, c'est assez logique. Ou Borges a beaucoup d'humour. Voilà. Donc quand j'évoque le rire sans Freud et sans Bergson, je suppose que avec Bergson ou avec Freud ou avec d'autres, on se marre autant, et il faut qu'il y ait une compatibilité d'humeur entre une réflexion et l'humour. Après, l'esprit de sérieux, c'est autre chose. Ce n'est pas la réflexion. C'est une morgue, c'est une posture, c'est un surinvestissement de soi. Alors là, je parlais presque comme Angelus Silesius, qui dit voilà, il fallait aussi écraser le moi ou écraser la personne. Mais les faux grands comiques que vous évoquez, comme Trump ou Boris Johnson, déjà ne sont pas drôles très longtemps et en fait sont assez sinistres. Voilà.
Mais l'histoire est employée comme un artifice. C'est une des machines, non? Mais je crois que toujours dans une histoire, dans un récit, il faut mettre des détails comme ça circonstanciels pour que le lecteur y croit. Cela n'écoute rien. Mais il faut les mettre, surtout à présent. Jadis, c'était mieux. À présent, par exemple, si vous avez besoin d'un homme invisible, il vous faut inventer une méthode chimique, une méthode scientifique pour les faire invisibles. Tandis qu'auparavant, c'était plus facile. On n'avait besoin que d'une bague, par exemple, d'un manteau. Cela suffisait. Tandis qu'à présent, nous avons besoin de raisonner tout. Donc peut-être ce qu'on appelle science fiction est une forme un peu timide de la littérature d'imagination. C'était mieux quand on pouvait directement imaginer les choses magiques. On n'avait pas besoin de circonstances logiques ou de fictions logiques.
Alors voilà, c'est comme ça à la radio. Vous parlez de quelqu'un et par la magie des archives, il arrive. C'est Borges dans une archive de 1978. Les entretiens à voix nue qu'il donnait à Jean Dev pour France Culture, Pierre Sanche, et où il dit... Il faut pas se priver de détails. Il faut y aller. C'est vraiment un bon cadeau à se faire et à faire au lecteur. Et on n'est pas obligé que ces détails soient de la raison et de la logique.
Oui, et c'est intéressant ce qu'il dit sur la justification, par exemple, de l'invisibilité, parce que c'était aussi quelque chose qui obsédait, qui énervait beaucoup Hitchcock, le vraisemblable. Voilà, il voulait construire une scène, on lui disait oui, mais c'est pas possible. Et lui, il était très énervé, il se battait sans arrêt contre cette espèce de vampire du vraisemblable. Et quant aux détails, Borges et d'autres, Nabokov l'ont dit, tout. Et à propos de Flaubert, par exemple, c'est vraiment une véritable œuvre d'art, qu'elle soit cinématographique ou littéraire. Quand on la lit, on va être touché par un détail. C'est le détail qui va faire lever quelque chose, qui va faire apparaître un objet ou un reflet dans un regard. Ce n'est pas, encore une fois, le développement d'un récit qui aurait pu tenir en trois lignes, dont le lecteur a compris dès le début un petit peu les tenants et les aboutissants, mais ça va être dans ces détails qui, pour revenir à ce que disait Éric Chevillard, vont servir de petits pièges, de petites surprises, de fausses pistes, de fausses fenêtres ou de faux personnages ou de voilà.
Quand il dit jadis, alors on est en 1978, jadis c'était mieux et on se contentait de pouvoir bander le visage d'un homme pour que ce soit l'homme invisible. Aujourd'hui, il faudrait, pour pouvoir entre guillemets justifier l'invisibilité d'un personnage, de pouvoir maîtriser un procédé chimique le rendant invisible. Vous croyez à sa grogne à Borges qu'avant c'était plus facile, qu'on était moins obligé de se justifier?
Il n'avait pas lu Harry Potter. Donc voilà, le Harry Potter, je n'ai pas lu par ailleurs, mais je crois savoir que réinvente une cape et réinvente, comme on réinvente régulièrement, la naïveté en écriture. Donc c'est pas. Mais faut savoir que Borges était aveugle là depuis très longtemps. Donc son répertoire, enfin sa culture livresque s'est arrêtée à un moment donné. Donc son jadis, c'est très lointain, quoi. Mais il a quand même de très très belles réflexions sur le, en parlant d'homme invisible, sur celui de Wells, en jouant justement, en montrant que Wells a dû tenir compte des conséquences logiques de l'invisibilité de son personnage, parce que si son personnage est invisible, il est nu, s'il est nu, il a froid, s'il a froid, il se cache, donc c'est un personnage traqué. Donc le seul fait de l'invisibilité impose une narration. C'est ça qui est très très beau, c'est que le détail que vous allez choisir va raconter l'histoire à votre place.
Et ça, c'est ça qui est tendre, parce que c'est à la fois tendre et ça nous renseigne aussi sur presque des mécaniques de texte qui vont sans vous, en fait.
Enfin, exactement.
Et c'est assez beau, de même que la tarte à la crème, vous finissez par presque lui donner une sorte de moteur intrinsèque, Pierre Sange. Ben voilà, le texte, si on vous croit, vous pourrez presque considérer que c'est lui le lapin blanc à suivre, quoi.
Bien sûr, et ça je suis convaincu que les règles de la dramaturgie et même les règles de la grammaire elle-même, la syntaxe, écrivent à notre place. Je veux dire, on n'est que l'auteur de 30% dans les meilleurs des cas du livre.
Et c'est un chiffre renseigné.
C'est un calcul que j'ai fait, mais voilà. On peut le
contester. Non, je déconne.
Il est de source sûre, comme disait quelqu'un. Voilà, mais c'est aussi vrai, paraît-il, pour les mathématiciens. Paul Dirac disait, les équations sont plus intelligentes que nous, et je crois que la plupart du temps aussi, les métaphores sont
plus maniques. J'adore cette idée.
Une tarte de Stade du Miroir. Une tarte de fond de teint brutal. Une tarte à quoi se comparent les autres. Une tarte de ralliement au panache blanc. Une tarte d'esprit de contradiction. Une tarte de répartie fine. Une tarte de Witz façon hôtel algonquin. Une tarte de chevalier de la table ronde. Une tarte de dernière chance et de dernier avertissement. Une tarte va-tout. Une tarte coup de sonde et tâtonnement lointain. Une tarte d'offrande maladroite. Une tarte d'enthousiasme excessif. Une tarte pêchant par optimisme. Une tarte de mauvaise foi assumée en tremblant. Une tarte sacrifiée pour voir. Une tarte d'hypothèse par l'absurde. Une tarte d'antithèse et de répons. Une tarte de conciliation pire que le conflit. Une tarte de dernière extrémité. une tarte de gestes déplacés. Une tarte regrettée aussitôt. Une tarte excédant la pensée. Une tarte de l'art d'avoir toujours raison. Une tarte d'argument du troisième homme. Une tarte de sidération partagée. Une tarte Deus ex machina. Une tarte de respect mutuel. Une tarte de gentleman. Une tarte de l'incident clos. Une tarte de modeste participation. Une tarte de dignité face à l'affront. Une tarte venue de loin. Une autre de plus loin encore. Véhicule d'une amertume immémoriale. Une tarte dont l'explication se trouve sans doute ailleurs et attend qu'on la trouve. Une tarte en mémoire de toutes les tartes tombées pour rien. Une tarte de la recherche du mot juste au beau milieu d'un champ de bataille. Et une tarte suggérée en l'absence de consensus.
C'est le catalogue numéro 4, Pierre Sange qui intervient à la page 142. On était dans les mathématiques et les équations plus intelligentes que nous ou que les mathématiciens. Cette forme revient ici souvent. De manière générale, on peut considérer que la liste et l'accumulation en dehors des tartes à la crème est quelque chose qui vous intéresse. Pourquoi ?
Parce que c'est un plaisir déjà, j'espère pour le lecteur, mais pour le à écrire, c'était un régal. Le catalogue et la liste, c'est toujours un moment où on se permet un pas de côté dans la narration, c'est ce que faisait très très bien Rabelais, et on commence à étirer des mots, et encore une fois, on se situe entre le moment où la narration va laisser place à quelque chose de presque de pictural. C'est ce que Daniel Arras, quand il parlait du détail en peinture, il faisait une différence entre l'iconique et le pictural. Donc de loin, c'est un visage, et quand on s'en rapproche, ce n'est plus un visage, ce sont des taches de peinture. La liste a aussi un petit peu cet effet où il y a un effet d'étourdissement, d'hypnose, où tout d'un coup on est dans une litanie, et on essaie d'interrompre la liste au moment où on perd le lecteur qui va s'endormir, fatigué par toutes ces tartes, mais on essaye de, enfin en tout cas moi j'essaye de me tenir, de lancer quand même des significations. Ce sont des tartes réfléchies, non seulement par Stan Laurel, mais aussi par moi au moment de l'écrire, mais qui ont l'air d'abandonner toute nécessité d'écriture pour se livrer au seul plaisir de parler.
D'ailleurs, d'abandonner aussi une sorte de cadre qui serait celui que vous posez dans le reste du texte. C'est-à-dire que c'est aussi, comme vous le dites à propos de Rabelais, une pause, quoi.
Oui, c'est une pause. C'est un interlude.
Un autre endroit.
Voilà. C'est un livre avec des interludes, comme Le Bourgeois Gentilhomme. Voilà, il y a des ballets. Donc c'est toujours aussi pour faire en sorte que le lecteur soit distrait entre deux scènes plus sérieuses, s'il y en a. Et voilà, tout d'un coup, une petite pause musicale. Voilà,
Ça veut dire que vous imaginez vos livres comme des petits opéras, des films, des pièces de théâtre?
Alors, j'avais pas pensé à ça, mais là, oui, un mini-opéra de chambre, oui, ça serait, voilà, ou de cuisine, oui, ça peut être une image, avec des alternances, avec en tout cas une façon un peu musicale de penser, ou cinématographique, de penser des alternances de scènes, des alternances de couleurs, avec ces petites listes-là qui j'espère, reposent un peu.
Chercher les forces, les forces dans le langage, les forces sur le plateau, les forces dans la peinture. J'avais été très frappé, c'est un ami, Constantin Bobas, qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps. À Constantinople, à Istanbul, il y avait Sainte Sophie, la Sainte Sagesse, il y avait Saint Irénée, la Sainte Paix, et une troisième église qui n'existe plus du tout, qui était la Sainte Force. C'était quelque chose comme Agia Dynamis ou je ne sais pas quoi. Donc aussi que la force qui n'a aucun rapport avec la violence, bien entendu. La force qui est autre chose que la violence. Mais la force, l'idée de force de la pensée, force du paradoxe, ou d'avoir affaire à des forces. Et aussi considérer que peut-être, parfois, que le langage ne nous appartient pas, que le langage est inhumain. Après tout, que peut-être, c'est peut-être pas Balzac qui a écrit la Comédie humaine, c'est la langue elle-même. Peut-être que de même que la Terre d'elle-même produit des effondrements, des nouveaux paysages, que l'idée que la langue n'est pas réductible, le langage n'est pas réductible à une panoplie d'outils. Que lutter, c'est ce qu'on fait lorsque on écrit, vous le savez bien, quand toutes les conceptions utilitaristes du langage. Le langage, ça peut être ça aussi, mais c'est aussi autre chose. C'est aussi une danse offerte.
C'est un archive de 2013, la voix de Valère Novarina, dramaturge, auteur, peintre d'ailleurs, au micro d'Alain Weinstein, dans l'émission Du jour au lendemain. Pierre Sange, en l'écoutant conclure comme ça dans cet archive par la danse offerte, je me suis dit presque, et des forces, oui, de la pensée, du langage comme l'analyse des forces en présence, je me suis dit peut-être que cette bataille du siècle de 1927, c'est aussi un texte, quoi. Toutes ces tartes qui volent d'un corps à l'autre comme ça, parfois en abandonnant toute direction ou tout sens, ça pourrait être le lieu du livre.
Oui, une sorte de page blanche crémeuse, oui, c'est possible. Je me rends compte que Valère Novarina avait déjà dit en mieux ce que j'ai exprimé tout à l'heure, mais ça arrive, hélas. Mais en tout cas, cette scène-là peut servir de support à l'écriture et la réflexion de Saint-Laurel aussi, de servir de prétexte à une écriture, non seulement parce qu'il y a ce lieu du conflit, comme il était évoqué à l'instant, le conflit, puis ce jeu de vengeance et de revengeance qui est un moteur d'écriture depuis l'Antiquité en passant par Shakespeare, mais aussi cet objet même, les différents objets qu'on a évoqués tout à l'heure, le chapeau melon, la tarte, les véhicules, ça aussi ce sont des accessoires ou des décors de cinéma avec lesquels on veut à nouveau réécrire des choses et les recombiner pour représenter des personnages qui ont disparu, mais avec une certaine nostalgie, leur redonner vie.
Merci beaucoup, Pierre Sange. Projectile au sens propre, c'est le titre de ce texte. Il est publié aux éditions Verticales.
I'm cuckoo and you're cuckoo, sing tra-la-la-la-la. All the folks have all gone wild, oh what a howdy-do. It is because two funny chaps thought of all something new. Side by side you start to glide, forget all your troubles, let everything slide. For I'm cuckoo and you're cuckoo, sing tra-la-la-la-la.
À la prise de son, c'était Alain Joubert. Ce soir, à la réalisation, Charlotte Roux. Par les temps qui courent, c'est Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos, Julie Ascal et Marianne Chassor. C'est aussi une page sur franceculture.fr, Par les temps qui courent, et un podcast via l'application Radio France. Il est bientôt 22h, si vous écoutez en direct. Dans un instant, c'est le journal. Très belle soirée sur France Culture.